Alors pour la prédication de ce matin, on va parler de déménagement. Alors vous savez, un prédicateur, il est souvent inspiré par ce qu'il a vécu un petit peu dans les temps avant de préparer la prédication. Et avec mon épouse, on a vécu un déménagement, plutôt un emménagement. Du coup, c'est ça qui m'a inspiré. Et changer de lieu, c'est pas rien. Alors pour nous, ce déménagement, c'est surtout du bonheur, juste du bonheur. Ça nous fait tellement plaisir de venir vivre ici, avec vous, parmi vous, d'œuvrer ensemble au plan de Dieu pour cette église et pour cette ville. Mais changer de lieu de vie, c'est pas rien. Il y a plein d'incertitudes, il y a des découvertes, une adaptation, des remises en question, des changements de manière de vivre aussi un petit peu. Plein de choses qui demandent beaucoup de foi et de confiance en Dieu. Et au milieu de notre joie d'être ici, on vit tout ça. Et ça m'a fait penser, pour ce matin, à ce célèbre voyage demandé par Dieu au premier patriarche, à un des premiers patriarches de la Bible. Je veux parler d'Abraham, qui s'appelait à l'époque Abram. Bon, j'espère que je ne vais pas me tromper et dire tout le temps Abram. C'est cette histoire biblique que j'aimerais réfléchir avec vous ce matin. Et nous allons lire en Genèse, le chapitre 11, à partir du verset 31 jusqu'au verset 9 du chapitre 12. Genèse 11, verset 31. Terah partit d'Ur des Chaldéens, emmenant avec lui son fils Abram, son petit-fils Lot, le fils de Haran, et Sarai, sa belle-fille, la femme d'Abraham, pour se rendre au pays de Canaan. Mais arrivé à Haran, ils s'y établirent. Terah vécut 205 ans, puis il mourut à Haran. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai. Je ferai de toi un homme important, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il emmena Sarai, sa femme, son neveu Lot, les biens et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran, et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'à un lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Bethel. Il établit son campement entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il y construisit un autre autel à l'Éternel et le pria. Ensuite, Abraham repartit vers le sud, d'étape en étape. Il gagna le Négev. Alors ce texte nous parle de la famille de Terah, dont Abraham est le fils. Et, si tu peux passer, Terah prend avec lui sa famille et il quitte la ville d'Ur, en Mésopotamie. Vas-y, il y a des petits trucs qui vont apparaître. Il quitte la ville d'Ur pour se rendre en Canaan, beaucoup plus à l'ouest. Mais entre les deux, en ligne droite, il y a un immense désert. Alors ils sont obligés de contourner ce désert par le nord en suivant ce qu'on appelle le croissant fertile. Et c'est ce qui les amène à mi-parcours à Haran. Haran qui est une grande oasis à cette époque-là, un grand lieu d'échange aussi, un lieu prospère. Mais finalement, ils ne continuent pas leur chemin jusqu'en Canaan. Le texte nous dit qu'ils s'installent à Haran. Et c'est après plusieurs années que Dieu s'adresse à Abraham en lui demandant de continuer sa route. Et je trouve qu'il y a plusieurs choses étranges dans ce texte. En effet, on ne nous dit pas dans ce texte pourquoi Théra décide de quitter la Mésopotamie avec toute sa famille pour se lancer dans l'immense voyage jusqu'en Canaan. Et on ne nous dit pas non plus pourquoi ils ont finalement abandonné leur projet et pourquoi ils se sont arrêtés à Haran, environ à mi-parcours. On peut trouver aussi étrange de voir Abraham obéir à ce Dieu qui, dans le texte, semble s'adresser à lui pour la première fois. Dans ce texte, on a l'impression qu'Abraham ne connaissait pas encore Dieu, mais que le Seigneur lui dit de faire ses bagages et Abraham obéit. C'est un peu étrange. Mais si ça semble étrange, c'est uniquement parce que ce texte nous raconte l'essentiel de l'histoire de la famille de Théra et d'Abraham. Il passe sur pas mal de détails. En revanche, il y a un autre texte biblique qui nous donne plus de détails sur cette période de la vie d'Abraham. Et je vous invite à lire en Actes chapitre 7, les versets 2 à 4. En Actes, livre des Actes, au chapitre 7, les versets 2 à 4. C'est Étienne, l'apôtre Étienne, qui nous parle dans ce texte. Étienne dit alors, « Chers frères et pères de cette nation, écoutez-moi. Le Dieu glorieux apparut jadis à notre ancêtre Abraham quand il vivait encore en Mésopotamie, avant de s'établir à Haran. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta parenté et va dans le pays que je te montrerai. » C'est ainsi qu'Abraham quitta la Chaldée et vint se fixer à Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit venir dans le pays où vous habitez actuellement. Dans ce texte des Actes, on a un peu plus de précision. Dieu s'était déjà révélé à Abraham lorsqu'il se trouvait encore en Mésopotamie, c'est-à-dire dans la ville d'Ur. Et il avait déjà demandé à Abraham de quitter son pays, sa parenté, pour se rendre en Canaan. Abraham est donc parti, mais son père Théra est venu avec lui, d'après le texte de la Genèse. Pourtant, ils se sont arrêtés à mi-parcours, à Haran, ils s'y sont installés, et le texte d'Actes 7 nous précise que ce n'est qu'après la mort de son père qu'Abraham et sa famille ont fait leur bagage pour se rendre enfin en Canaan. Et j'avoue que ces quelques précisions, moi, elles me rassurent, personnellement, parce que ça rend Abraham un peu plus humain. On a tendance à montrer Abraham comme une sorte de super croyant qui ne doute pas, qui va tout quitter sur une seule parole d'un Dieu qu'il ne connaît pas, celui qui obéit alors que Dieu lui parle pour la première fois. Mais ce que nous montrent ces deux textes, c'est qu'Abraham avait déjà une relation personnelle avec Dieu lorsqu'il habitait en Mésopotamie. Dieu s'était déjà révélé à lui. Dieu lui parlait déjà à cette époque. Je pense que sa foi et sa confiance en Dieu ne sont sûrement pas nées du jour au lendemain, mais durant sa vie en Mésopotamie, je crois qu'Abraham a pu expérimenter l'amour, la fidélité de Dieu, sa présence aussi également, qui ont fait grandir chez lui la foi et la confiance. Et là, je trouve qu'Abraham nous ressemble déjà un petit peu plus. Avoir confiance en Dieu, avoir foi en lui, ce n'est pas quelque chose d'inné. Ça ne nous tombe pas dessus dans un rêve ou dans une révélation, c'est un apprentissage. Nous vivons, nous expérimentons, parfois peut-être même est-ce que nous testons la fidélité de Dieu et son amour à notre égard. Il y a des moments où on en est convaincu. Parfois, peut-être, nous en doutons. Mais petit à petit, au travers de notre vie avec le Seigneur, nous apprenons à nous en remettre à Dieu, à lui faire confiance, à lui obéir, même quand nous ne comprenons pas toute la situation. Si Abraham a eu foi en Dieu, s'il lui a obéi, s'il a pu quitter son pays avec confiance, je pense que c'est avant tout parce qu'il pratiquait déjà peut-être quotidiennement la présence de Dieu et sa relation à lui, alors qu'il habitait encore en Mésopotamie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nicolas Herman. Je ne pense pas. C'était un ancien militaire qui est devenu moine, mais vers 1650. Donc si vous ne connaissez pas, c'est peut-être normal. Il est devenu moine à l'époque au monastère des Carmes Deschaux à Paris, où il a pris le nom de Laurent de la Résurrection. Bon. Et il a écrit plusieurs lettres dans lesquelles il parle pas mal de sa vie spirituelle. Et à un moment, dans une lettre, il résume ce qui est pour lui finalement l'essentiel de la vie spirituelle. Et voici ce qu'il en dit. La seule pratique la plus sainte, la plus commune et la plus nécessaire en la vie spirituelle, c'est la présence de Dieu. C'est de se plaire et de s'accoutumer en sa divine compagnie, parlant humblement et s'entretenant amoureusement avec lui, de temps en temps, sans règle ni mesure. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire, surtout venant d'un moine qui ont la réputation d'avoir une vie spirituelle réglée comme une horloge, des prières à heure fixe, une vie très marquée par des règles, des moines qui quittent tout pour se consacrer à leur vie spirituelle. Et bien lui nous dit que tout ça, c'est pas l'essentiel, c'est pas si important. Mais la seule pratique la plus sainte, la plus commune, en même temps, c'est la plus simple peut-être, mais la plus nécessaire en la vie spirituelle, c'est la présence de Dieu. C'est de se plaire, de s'accoutumer en sa divine compagnie, parlant humblement, s'entretenant amoureusement avec lui, de temps en temps, sans règle ni mesure. Et ce moine nous décrit en fait ce que c'est que de vivre et de développer une relation. Pratiquer la présence de l'autre, s'accoutumer à sa présence, se parler humblement, avec amour, de manière continue. Ce moine nous écrit ici que la vie spirituelle, la relation à Dieu, ce n'est pas une chose inscrite dans un lieu, uniquement dans une église. Ce n'est pas non plus inscrit dans des règles à suivre ou dans une manière de faire. La vie spirituelle, la relation à Dieu, c'est notre vie. C'est tout. Notre vie de chaque instant. C'est très simplement que partout et à tout moment, nous sommes appelés à aimer Dieu, à lui exprimer notre reconnaissance, notre attachement, notre confiance, pas que dans les grandes choses, mais aussi dans les petites choses du quotidien. D'ailleurs, dans une autre lettre, ce moine nous écrit ceci : il ne faut pas se lasser de faire de petites choses pour l'amour de Dieu, qui regarde non la grandeur de l'œuvre, mais l'amour. Et il prend même un exemple qui peut faire sourire. Il écrit : je retourne ma petite omelette dans la poêle pour l'amour de Dieu. Alors, ça peut faire sourire. Mais je trouve ça beau de voir que même ce petit geste banal, il le fait avec reconnaissance et donc avec amour pour son Dieu. Il sait d'où lui vient l'omelette. Je pense que c'est ce qu'Abraham avait commencé à développer avec Dieu en Mésopotamie. Pratiquer la présence de Dieu et parler avec lui. C'est ce qui a fait naître et grandir en lui la foi et la confiance en Dieu. C'est ce qui a permis son obéissance aussi également, le jour où Dieu lui a demandé quelque chose d'assez incroyable, se mettre en marche pour une destination inconnue. Abraham nous ressemble. Nous aussi, nous devons apprendre, expérimenter, pratiquer la présence de Dieu dans notre vie. Alors pourtant, Abraham n'est pas allé directement jusqu'en Canaan. Il s'est arrêté, et sûrement pendant plusieurs années, à Haran. Parce que le texte nous parle des biens qu'ils avaient accumulés là-bas, donc ça a dû quand même durer un bon moment. Mais pourquoi ? Est-ce que sa foi affaiblit ? Tout d'un coup, à mi-parcours, il s'est dit « Oh, je suis bien là, je vais y rester. » Pourquoi ne va-t-il pas jusqu'au bout de son obéissance ? Eh bien, les textes que nous avons lus ne le disent pas, pas clairement, mais il y a deux indices qui peuvent nous éclairer. Alors là, on rentre dans des hypothèses, mais je pense quand même bien fondées sur le texte biblique. En acte 7, on nous dit qu'Abraham a quitté Haran après la mort de son père. Et en Genèse 11, on nous dit que Terah, le père d'Abraham, est mort à Haran à un âge très avancé. Et là, j'aime penser que peut-être
Abraham a arrêté son voyage parce que son père vieillissait. Son père ne pouvait plus continuer ce chemin éprouvant. Il se serait alors arrêté dans cette ville d'Aran pour veiller sur son père pendant la fin de sa vieillesse. Son père qui n'avait personne d'autre que lui. Et là, il ne désobéit pas à Dieu. Parce que pour le Seigneur, aimer et obéir à notre Père céleste ne va pas sans aimer et respecter nos parents terrestres. La preuve, c'est qu'honorer nos parents, c'est un des 10 commandements que Dieu a donné à son peuple. La foi d'Abraham n'a pas faibli, sa confiance n'a pas baissé. Et je le répète, notre vie spirituelle, notre relation à Dieu, c'est tout simplement notre vie tout entière, avec ses rebondissements, avec ses changements, avec ses imprévus. Et le moine Nicolas Hermann nous parlait des petites choses faites pour l'amour de Dieu. Eh bien, la pause qu'Abraham a faite dans son voyage que Dieu lui avait demandé, lui avait ordonné, cette pause qu'il a faite, il l'a faite pour l'amour de son Père céleste, en montrant de l'amour à son Père terrestre. L'obéissance à Dieu n'ira jamais sans l'expression de l'amour envers les autres. Sinon, nous saurons que nous sommes sur la mauvaise voie. Puis toujours, Dieu et Abraham se parlent, leur relation continue. Le père d'Abraham décède à un âge très avancé et cette fois, il est temps de reprendre le voyage jusqu'en Canaan. Et lorsqu'Abraham arrive à destination, je trouve marquant de voir que, à chaque endroit où il se fixe, le texte ne nous raconte rien de ce qui s'y passe. Rien. Sauf une chose. À chaque étape. Partout où Abraham vit. Tu peux encore passer ? Voilà. Partout où Abraham vit, le texte nous dit qu'il construit un autel à l'Éternel pour le prier et pour l'adorer. C'est la seule chose que nous dit le texte sur ce qu'a vécu Abraham à Sichem et à Bethel. Il construit un autel à l'Éternel. Le reste, ça serait du détail. La seule chose qui compte, la seule chose nécessaire, c'est qu'Abraham continuait à pratiquer la présence de Dieu, à se plaire et à s'accoutumer en sa compagnie et à lui parler. Je ne pense pas qu'Abraham était une sorte de super-héros de la foi, dont justement la foi serait apparue comme par magie, qui aurait obéi en un claquement de doigts. Je pense qu'il était plutôt comme nous. Il a appris la foi, il a appris la confiance, il a travaillé, il a expérimenté sa relation à Dieu. Il a mis aussi son amour pour Dieu à l'œuvre dans sa vie, autour de lui, avec ses proches. Il a même douté et chuté parfois, parce que si on continue à la lecture de ce chapitre 12 de la Genèse, on verrait qu'en Égypte, Abraham a menti et a trahi sa famille parce qu'il avait peur pour sa vie. Ça lui est arrivé également. Mais malgré ses fautes, malgré ses moments de doute aussi, Abraham a continué constamment à dialoguer humblement et amoureusement avec son Dieu. Tout comme Dieu continue partout et à chaque instant à nous parler et à nous montrer, nous prouver son amour et sa fidélité. Les personnages bibliques ne sont pas parfaits. Il n'y en a qu'un seul personnage biblique qui est parfait, c'est le Christ. Les autres ne le sont pas, Abraham non plus. Mais ça reste quand même pour nous des exemples, parce que c'est aussi dans notre imperfection, c'est dans nos limites, c'est dans nos craintes, dans nos doutes, que nous sommes appelés par Dieu à rechercher sa présence, à la vivre paisiblement au quotidien, à s'y habituer, à l'expérimenter. C'est dans notre humanité que nous devons apprendre à parler avec Dieu. Alors parfois en prenant un temps spécial pour ça, mis à part, comme Abraham qui construisait des autels. Alors nous, ce ne sera peut-être pas pour en construisant des autels, mais peut-être en se fixant un temps chaque jour pour connaître Dieu dans sa parole, pour parler avec lui dans la prière. Mais surtout, comme le moine Nicolas Herman nous y invitait, que nous puissions apprendre à parler à Dieu humblement et amoureusement, de temps en temps, sans règle ni mesure, c'est-à-dire dans notre vie entière. Parler à Dieu, vivre sa présence, apprendre à le connaître aussi en lisant sa parole, et toujours que notre amour pour lui se reflète dans nos vies, c'est, je pense, la clé pour vivre dans la paix et la joie du Seigneur, quelles que soient les circonstances. Et je dis bien quelles que soient les circonstances, partout, à chaque instant. Et c'est la promesse que nous fait ce texte assez connu de Philippiens chapitre 4, et je terminerai par la lecture de ce passage. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières, vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Amen. Pour terminer ce temps de prédication, pour répondre aussi peut-être à cet enseignement qui vient d'être apporté, cette lecture biblique qui a été faite, je vais inviter les musiciens à revenir. J'aimerais vous inviter à chanter ensemble un cantique dans lequel nous voulons affirmer que l'espérance et la joie seront pour nous toujours dans la seule présence de Dieu. Je vous invite à chanter le cantique qui s'appelle « Crier à toi » et je vous invite à vous lever pour ce chant.